Spoiler alerte. Les épisodes se suivent chronologiquement. On vous conseille de commencer par le début.
On va devoir se serrer la ceinture.
Ça va être génial.
Faut que tu prennes des risques.
C'est de ouf.
On adore.
C'est dur.
Ça me saoule.
Bon, est-ce que c'est la fin du monde d'avoir raté?
Je suis plus sûre de rien du tout.
Allez-y, lancez-vous, sinon vous le regretterez.
Bienvenue dans Commencer, le journal de bord de la création de notre entreprise.
Je me fais de la marge en 5 jours à partir du moment où je vends plus de 2 tailleurs.
Dans l'épisode précédent, nous avons fait nos premières ventes, ouvert le champagne et célébré.
On est trop en retard, mais je pense que dès février, j'ai envie de développer d'autres produits pour la rentrée prochaine.
Retour à la réalité et à mon très cher business plan.
Mon chiffre d'affaires, moins mes charges variables, divisé par mon chiffre d'affaires, multiplié par 100. Ah, bah ça, c'est la marge sur coût variable.
Il faut lancer le site internet pour prendre le relais des ventes.
Quels sont les next steps? À quel moment tu veux que j'intervienne?
Il ne faut pas se louper si on veut un bon référencement et bien relier le site au stock produit. Je commence enfin à en voir le bout.
Ça paraît tellement simple maintenant, mais je reviens pas que ça ait pris tellement de temps de le faire, ce site.
Donc là, en vrai, ce site internet, c'est un peu notre prio 1 de la semaine.
Nous avons choisi de travailler avec la plateforme Shopify.
T'as payé combien le...
1004 ou 1005, je sais plus.
Enfin, t'es une petite marque, tu montes ton truc, t'as pas la possibilité d'avoir les mecs à 10 000 balles, donc du coup tu fais avec les moyens du bord et au final, tu vois, ça fait quand même un truc qui tient la route, quoi.
On voulait un module qui permette à nos clientes de composer leur tailleur en alliant le haut et le bas de leur choix. Pour réaliser cela, on n'a pas pu faire l'économie d'un développeur.
Et donc là, ce serait dans composer mon tailleur.
Ouais, donc toi t'es sur Safari.
Oui.
Comme ça, moi je teste sur Chrome.
Quand la page s'ouvre, la mise en page est bizarre, il faut rafraîchir pour que ça monte.
Ça marche.
On va bientôt pouvoir mettre en ligne.
C'est cool.
Alléluia. J'ai encore un message d'une jeune femme qui demande où est-ce qu'elle peut venir essayer nos produits.
Ouais, non, c'est clair que, bon, sans doute, un site internet suffit pas.
Faut qu'on ait des points de vente physiques. Et plus rapidement que ce qu'on pensait.
Prochaine étape, donc, se trouver des bureaux.
Alors lui, qu'est-ce que c'est le plan ?
Dans un immeuble de pierre de taille, bon standing.
Saison 2, épisode 5. Relations presse, hashtag et compagnie. Le lancement passé, il faut maintenant affiner notre plan de communication pour la suite. Il nous reste beaucoup de tailleurs à vendre et il faut développer la notoriété de 17h10. Même si nous sommes deux anciennes de la communication, il y a des points dont on ne s'occupait que de loin en agence, car des experts prenaient le relais.
Je pense qu'on est aussi, voilà, on est des communicantes.
La partie relation presse, notamment.
On sait aussi qu'il faut du recul sur ce qu'on fait, qu'il y a des vraies compétences RP qu'on n'a pas. Et voilà.
Après, effectivement, nous, on organise des journées presse aussi, deux par an, au bureau.
C'est un métier qui demande un vrai réseau.
Enfin, on fait au bureau,
une énergie incroyable et qui prend beaucoup de temps.
Mais sinon, bah là, en novembre prochain, on fera une journée presse pour présenter les collections été 2019.
D'accord, ouais, donc là, sinon, on a nos photos.
Donc oui, voilà, c'est généralement mi-novembre.
Ouais. En tant que marque de mode, on ne peut pas faire cette économie. Nous avons trouvé une agence qui nous a séduites, la Falctory. Nous avons rencontré Sophie et Anne-Charlotte, sa fondatrice.
Bah effectivement, si vous les avez tôt, c'est
plus facile.
Ah bah c'est mieux.
Ouais.
De toute façon, en RP, enfin on a sûrement dû vous le dire, c'est plus on anticipe et plus on a de chance d'avoir de la visibilité dans un maximum de rubriques différentes et de supports différents. Donc
autre question, justement sur cette question des influenceurs.
Mm-hmm.
Moi, qui te fais un truc où beaucoup on s'y connaît pas, pas trop.
Non,
vraiment pas trop du tout. C'est pas trop comment les approcher et surtout que moi ma crainte à l'heure actuelle c'est que nos produits sont chers. Donc c'est pas, on fait pas
des mini cactus qu'on peut envoyer.
Donc j'avoue que ça aussi c'est un truc qui m'intéressera de travailler à comment on va chercher ces influenceuses.
Ouais, après faut trouver les bons surtout.
C'est ça.
Bah nous on peut aussi déjà réfléchir à une liste qu'on peut vous envoyer à personnes, aux filles à qui on peut penser et voir comment on peut les approcher aussi. Et après c'est vrai que si on veut quelque chose il faut faire un
faire un événement ou un voyage presse
dans vos usines ou je sais pas quoi, mais enfin en tout cas
on pourra réfléchir aussi. Nous, on a très envie de trouver des axes de contenu. C'est toujours ce travail de mettre en valeur. Après, j'imagine que c'est pas gratuit.
non plus. C'est pas parce qu'on les raconte et qu'on les met en avant qu'elles se laissent berner et que voilà, ça gratte. Non, mais...
bah, c'est surtout que c'est pas nos 2000 followers, mais leurs 50 000 qui vont les mettre en avant. Donc,
Après, ce qui est pas mal.
Peut-être au début, sélectionner 5 profils très intéressants.
Voir si elles sont intéressées aussi et ça stat aussi. C'est vrai que c'est direct, elles nous envoient leur. Moi, je le vois en fait aussi. Il y a des filles, mais des influenceuses qui sont hyper, hyper suivies. Si elles ont vraiment un coup de cœur pour une marque, elles le feront gratuitement.
Si elles aiment le projet, c'est un projet aussi derrière qu'elles. Oui. C'est pas simplement un pantalon noir et une veste noire, c'est tout un projet. C'est.
C'est pas évident, hein, mais en tout cas, ça se fait, on l'a vu. C'est possible.
Ouais. Bon, en vrai, pour être honnête, en stratégie social media, push, Facebook, etc. Enfin, nous, on sait faire. On
a quand même bien chez Combini.
J'ai bossé chez Combini. Voilà, tout. Mais c'est vraiment le côté très DA, en fait.
Ouais, en fait, d'avoir des belles photos.
Même que ça soit joli dans le feed. C'est quelque chose qu'il faut prévoir en amont. Et là, j'avoue que moi, j'ai essayé de travailler. Il faut reconnaître ses limites.
La partie direction artistique nous pose problème. Construire une identité graphique forte. Un indispensable pour une marque de mode.
Après, en idée de contenu, je pense qu'on est. On a déjà plein d'idées. Bien, c'est vraiment après en termes d'exécution en fait.
Oui, trouver les belles photos, les bons. Après, déterminer peut-être un feed commun.
Exactement.
Et là, sur Instagram ?
Ouais.
Justement, Instagram, donc c'est vous qui le gérez.
Date, ouais.
Et ça va rester un Instagram.
Non, j'ai envie que ça devienne un Instagram un peu plus mode.
Ouais, parce que
Quoi poster.
On voudrait passer d'un compte Instagram personnel qui raconte notre aventure entrepreneuriale à un vrai compte de marque. On sent qu'on atteint nos limites et qu'on aura rapidement besoin de s'entourer d'un graphiste, dès que nos finances le permettront.
Le matin, c'était qu'est-ce que je vais poster ? Qu'est-ce que je vais montrer ? On ne veut pas remontrer une énième bobine de fil pour la 50e fois, on va croire que je suis mercerie.
Lors d'un dîner, nous réfléchissons avec Claire, une très bonne amie rencontrée en agence, pour trouver comment nous pourrions appeler notre communauté, quel hashtag utiliser, quel contenu proposer.
Vous, pour moi, il y a un truc clair sur le business.
Ouais, qu'il faut assumer. Hein.
Qu'il faut assumer jusqu'au bout, parce que ça va avec 17h10
c'est
et tout.
C'est la différenciation.
Mais comment le dire de pas de manière boring, quoi. Parce que si tu présentes les gens genre businesswoman, j'ai l'impression d'avoir revu. Et donc t'as un truc d'empowerment, mais je déteste le mot empowerment, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'utilise, c'est à toutes les sauces. Est-ce que c'est pas la squad ?
C'est pas mal un squad.
Parce que tu vois, t'as le côté, justement, squad, enfin tu vois, c'est hyper utilisé sur Insta. T'as plein de... ça veut dire communauté de femmes, tu vois, genre de girl squad.
Faut qu'il y ait un contenu qui soit
En lien avec le tailleur.
En gros, le benchmark, tu sais, c'est par exemple les hashtags rouges. Elle fait les filles en rouge.
Oui, oui. Tu vois, soit
du coup, moi en soi.
Ah, du coup, en fait, votre objectif, c'est que les filles, quand elles...
Cézanne Lover.
Voilà. C'est-à-dire quand elles postent des photos avec vos tenues, elles mettent le hashtag...
Et on a 4 au moins hashtags qu'on aime bien. On a brainstormé avec un pote copywriter qui a passé du temps avec nous.
Ouais.
Et on hésite beaucoup. Le premier, ce serait. Alors, je sais pas dans quelle heure que je les dise, mais hashtag working with 17h10.
Ok.
Qui a les côtés. Je sais pas si il faut que je te dise, working with 17h10. Hashtag 17h10 partners. Hashtag 17h10 society. Moi j'ai encore les associés, hashtag les associés.
Ouais.
Il y en avait d'autres que j'ai pas retenu, toi que t'aimais, Caro ?
Non.
On avait insiders aussi, mais.
Alors je pense que les associés, c'est. Alors moi je vais sortir le point de vue vraiment, je vais faire la vieille consultante.
Non, mais c'est important.
Enfin, le point de vue de la consultante en stratégie, mais je pense que les associés, c'est pas forcément approprié à. Enfin, c'est difficilement approprié parce que c'est un mot que tu peux utiliser pour plein d'autres choses. Donc en fait, les gens ils vont pas forcément penser à 17h10, donc vous allez vous retrouver avec un feed par, par les hashtags de newsletter, enfin les hashtags sur Instagram qui vont être différents de la marque 17h10. Après, je trouve ça intéressant de dire que t'as une communauté de femmes, tu vois, dans 17h10 Society.
bah ça joue genre on prend les codes des hommes, quoi. Ouais.
Mais après je trouve que t'es plus dans l'instant. Partners et society, ça fait très communauté, genre t'appartiens à la communauté.
Ouais.
Alors que working with 17h10, ça fait vraiment les instants de vie. Donc après ça dépend qu'est-ce que vous voulez capter comme truc. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est tout le concept aussi autour du nom, de se dire bah voilà, 17h10 c'est le moment charnière dans de la journée d'une femme, et du coup tu pourrais peut-être avec avoir un truc qui est working 17h10 et peut-être partying with 17h10, tu as le côté ou playing with 17h10, tu vois, tu peux lancer un premier truc et montrer que t'accompagnes les femmes dans tous leurs moments de vie avant et pendant et après 17h10, quoi.
Là, c'est cool aussi.
Et tu captes plus des instants de vie et en mode comment le costume accompagne finalement la femme dans toute sa journée et en particulier là au travail.
Même, je t'entends dire dans cette idée, si c'était de définir des nanas, si c'était il y a power, mais il y a peut-être aussi ce côté un peu. Je vais mal l'expliquer parce que les termes sont pas bons, mais soit un truc de champion ou d'avant-gardiste, de lead, de trucs comme ça. Si on
veut, ah, ça c'est bien, lead. Lead with 17h10, t'as un côté genre un peu lead the world, t'es leader d'une boîte, t'es leader de ton truc. T'as le côté genre, ça, tu dis le côté empowerment du costume sans. Tu lead une réunion, tu lead. En plus, ça c'est rentré dans le langage. Dans le langage français, on va dire. Ça, c'est hyper bien, moi, je trouve. C'est ce côté un peu, tu take the power, tu prends le pouvoir, et 17h10, ça te permet de te mettre dans les conditions de,
ouais,
de l'idée, de réveiller la partie en toi. C'est pas mal, attends, je vais voir si des... ouais, moi, j'aime bien celui-là. Lead, j'aime bien, parce qu'en plus, t'as le côté lead your... Enfin, tu vois, lead your meeting, lead your agenda, ouais, lead your private
life. Lead the way, tu vois. Ça peut même être de façon générale. Mais ça nous dit toujours pas comment on appelle les nanas.
Parce que je trouve qu'avec votre marque, il faut quand même parler à...
En vrai, de new leader, c'est pas mal, hein.
Parce que tu vois, t'as le côté... tu vois, dans leader, je trouve que t'as un côté statique, avec, alors que vous, c'est un peu les filles qui vont changer la donne demain.
Ouais.
C'est ça que j'entends, quoi.
C'est bien un truc tout simple, hein, new leaders.
Ouais, hashtag new leaders.
Ouais. Peut-être que je vais voir sur Instagram ce qui tourne. C'est Leading Girls, franchement, ça peut être pas mal. Hein. Alors là, j'ai l'impression que c'est dans ce que je tombe vachement plus sur les trucs de sport et tout.
Bah, est-ce qu'il faut aller... Ouais, il faut mieux aller se
poser. En fait, est-ce qu'il faut se greffer sur un truc existant ou est-ce qu'il faut inventer un nouveau truc?
Ouais. C'est une bonne...
Non, ça, on a jamais tranché.
Ok, bon, Leading Girls, c'est que des trucs de gamins, donc...
Nous allons commencer par faire des campagnes sponsorisées sur Facebook et Instagram. On continue à recueillir les conseils d'amis spécialistes des réseaux sociaux, comme Santiane, qui nous a gentiment consacré toute une soirée.
Mais du coup, est-ce que d'abord, en préambule, je vous fais une espèce d'intro et je vous distille un peu mes petites expériences CM ?
Ouais, carrément.
Là où moi je vais pouvoir peut-être vous apporter des choses, c'est que j'avais beaucoup de budget sponso, je faisais beaucoup de sponso, j'ai fait beaucoup de campagnes sur Facebook, j'ai fait beaucoup de campagnes aussi sur Insta, parce que du coup après quand tu fais des publicités sur Facebook, tu peux décider de tes canaux de diffusion et tu peux décider si...
Une campagne sociale réussie passe avant tout par une réflexion sur les cibles que l'on veut toucher. À qui souhaitons-nous parler de notre marque ? Et tout cela se passe sur la page Business Center de Facebook.
Dans les méandres du business center de Facebook, parce qu'il est quand même super compliqué. C'est très chiant à paramétrer une publicité.
Faut
faire plusieurs tests pour voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Faut savoir quel contenu vous voulez faire. Donc si tu fais plutôt du carrousel, de la vidéo, un lien cliquable direct, il faut vraiment rentrer dans les méandres, comme je le dis, qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire, de payer au clic, de payer à la vue, de payer au reach, il faut vraiment voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc il faut avant toute chose bien connaître votre cible, bien connaître votre audience. Donc Facebook, normalement, même quand tu mets pas forcément il faut quand même que tu aies une page bêta. Tu peux assez rapidement le voir si c'est plutôt des femmes, si quel âge elles ont, où elles sont situées en France, à partir
ça, de là. Ça, c'est basé sur ta fanbase.
Ouais. C'est basé sur ta fanbase et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est aussi basé sur ton reach parce que du coup, ta fanbase peut être complètement différente de ton reach parce que tu peux toucher en reach des personnes qui n'ont pas l'habitude de ta page.
Mm-hmm.
Donc,
fanbase. Ce sont tous les gens qui sont abonnés à votre marque sur les réseaux sociaux.
Du coup, il évolue.
Reach.
c'est le nombre de personnes que vos publications atteignent.
Ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois que vous verrez votre cible, comment elle est constituée, votre cible, vous pourrez vous créer des audiences. Moi perso, je me crée des audiences parce que si tu laisses faire Facebook,
ça va aller à tout le monde.
Ça va un peu à tout le monde. C'est pas forcément les gens qui sont intéressés par vous particulièrement et votre publicité elle risque d'être un peu morte.
Il est aussi important de poster les bons contenus aux bonnes heures.
Alors moi, mes bonnes heures, c'était quand les gens bossent pas. Donc c'était genre midi 13h et à partir de 18h.
Ok.
Et les posts matinaux, genre 8h du mat, marchaient très très bien aussi.
Ouais.
Je pense que voilà, ce qui marche bien, c'est proximité, s'insérer dans le quotidien des gens.
Ouais, être en résonance avec ce qu'ils vivent.
Donc moi, alors, c'est beaucoup, enfin, c'est ce qu'on appelle les posts putaclic, hein, on va pas se mentir. Hein. Tu fais de l'audience, pourquoi ? Parce que t'as fait un post voilà, que les gens aiment bien.
Ouais.
Et ce qui marche bien, c'est les animaux, tu vois, genre tu souhaites bon week-end, tu dis bon week-end à tous, tu mets une petite vidéo d'un animal, d'un chien, d'un chat, trop content, machin.
Donc il va se reposer. Ouais.
Ça, les mains, ça cartonne, on va pas se mentir, ça cartonne, c'est de la vulgarisation poussée à l'extrême, mais ça cartonne. Tu crées de l'affinité, les gens y reviennent parce qu'ils se disent ah oui tiens c'est trop mignon ce qu'elles font et tout, j'avais oublié machin, hop, ils reviennent voir. Enfin, je pense qu'il faut voilà, il faut un peu mixer aussi bien les contenus de tout le storytelling que vous faites autour de votre marque, c'est top. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Après, il faut voir du coup vraiment, je pense que dès que vous postez un truc, il faut vraiment que vous vous posiez, vous vous dites qu'est-ce qui a marché cette semaine, qu'est-ce qui a mieux marché, où est-ce qu'on a le plus de likes, pourquoi, à quelle heure on a posté, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a liké. C'est un peu chiant à faire, mais je pense que c'est intéressant à faire
bien,
semaine par semaine. Et après, je pense que quand vous grossirez, vous pourrez vous le faire mois par mois. Comme ça, vous voyez voilà, ce qui marche bien. Moi, je sais qu'on faisait des reports mois par mois, mais moi, semaine par semaine, je regardais déjà, je savais.
Bien
du coup, à la fin du mois, je savais quel poste avait le mieux marché. Je pouvais te dire, c'est le poste que j'ai posté tel jour qui était sur tel truc.
Ouais.
Je sais pourquoi il a marché du coup.
Je les ai de façon hebdomadaire aussi,
ouais. Important. Moi, ce que je vous donnerais aussi comme conseil sur Facebook, inscrivez-vous au maximum de groupes community manager et trucs comme ça, parce qu'ils donnent plein de conseils. Quand il y a des bugs, les gens ils se sollicitent entre eux et tout. Moi, j'apprenais plein de trucs sur ces groupes-là. Quand il y avait des gros bugs généralisés sur Facebook, j'étais au courant et je savais que du coup j'allais avoir des galères. Vous pouvez poser des questions et du coup les gens vous répondent, machin, ça te revient pas.
Tu me donneras des adresses de...
Nous avons aussi entamé des visites de bureaux et de showrooms.
C'est parti.
Je vous suis, merci.
Alors, ça vient tout juste avec le supermarché.
D'accord.
Donc, comme je vous expliquais, c'est une sous-location, mais vous allez voir.
Le vrai challenge dans la recherche de bureaux, c'est la trésorerie avancée. On n'imaginait pas que ce serait aussi cher. Les agences et propriétaires demandent 3 mois de loyer d'avance, plus 3 à 6 mois de caution. Aussi, quand on est une jeune entreprise avec seulement quelques mois d'existence, on ne peut pas présenter un bilan comptable pour assurer sur notre capacité à payer dans la durée. Résultat, on peut aussi nous demander une caution bancaire de minimum 6 mois de loyer.
Attention, la caution bancaire, ce n'est pas la banque qui se porte caution pour vous. Pas du tout. En réalité, elle bloque juste vos propres fonds sur un compte pour être sûre qu'ils ne seront pas dépensés. Ce qui implique, là encore, d'avoir ses fonds de disponibles.
Nous sommes donc à 15 mois de loyer en avance. Pour un loyer de 2 000 euros par mois, ça fait donc 30 000 euros avancés. Ça commence à faire beaucoup.
Dans ce contexte de première installation pour une jeune marque, la sous-location est souvent une option plus simple.
Qui reprend toutes les conditions financières.
Très bien, comme ça, c'est...
Ouais, génial. J'ai allé aussi sur le principe, sur le tarif, etc. On se dit OK, et qu'elles reviennent voir la surface pour...
En attendant de trouver une boutique ou un showroom pour recevoir nos clientes, nous nous positionnons sur des pop-up stores. Ça consiste à louer des espaces dans des boutiques pour une durée plus ou moins longue. Le prix dépend du lieu et de la surface. La plupart du temps, une commission est prise en plus sur le chiffre d'affaires des ventes faites dans le lieu en question.
J'ai une autre proposition de concept store, ce que je te disais par texto, d'un pop-up store qui s'appelle l'Artillerie, qui sera dans le Marais et qui sera en décembre 2018. Et donc voilà, il nous dit « Je me permets de vous contacter concernant l'organisation de la boutique éphémère de l'Artillerie en plein cœur du Marais pour la période de décembre 2018. Votre marque est intéressante et serait susceptible de s'intégrer avec l'univers contemporain et premium que nous souhaitons mettre en place avec l'événement. Pour vous donner une idée de l'univers du concept store, donc là, il nous donne plusieurs exemples de marques. J'ai un peu checké, c'est que des marques, effectivement, assez premium, très arty dans le style des marques. Enfin, tu vois, par exemple, Caval, c'était les chaussures débarrées.
Débarrées, ouais.
Je sais plus c'est laquelle. Je crois que c'est NKH Painting. C'est des t-shirts avec comme des éclaboussures de peinture. Il dit en gros que donc la boutique est maintenant pratiquement au complet au niveau des créateurs. Ils sont en train de faire les dernières sélections. Donc, en gros, il nous envoie un lien de candidature pour potentiellement candidater. Ce qui est vachement bien,
ouais,
c'est qu'il n'y a pas de commission sur le chiffre d'affaires.
Ah bon ?
Non. Donc, en gros, tu payes juste ta location de ton corner. Tu as soit un petit stand, soit un stand moyen, soit un stand premium. Donc, évidemment,
ça va être un croissant, ouais.
Premium, c'est assez cher. Mais c'est 3 mètres de linéaire. Petit stand, c'est 1 mètre de linéaire. Et stand moyen, c'est 2 mètres. Donc nous, on est même entre le petit ou le 2 mètres, suivant ce qu'on a envie de mettre en avant. Et tu vois, pour le petit, la semaine, elle est à 350 euros. Et pour le moyen, elle est à 600.
D'ici décembre et les pop-up stores, on vous rappelle que le site est en ligne. www.17h10.com. Pour ne pas rater la suite, abonnez-vous à ce podcast de Nouvelles Écoutes. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook @17h10paris, 17h10paris, et sur Twitter @commencezne.
Et si vous aimez ce podcast, mettez des étoiles, 5 de préférence.
Et n'oubliez pas, toutes les références entendues dans ce podcast sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes.
Commencer est une production de Nouvelles Écoutes, racontée par Amélie Delacour et Caroline Ray, réalisée par Aurore Meilleur-Mailleux, prise de son fait par Charles de Cilia, produite par Alexandre Moniol, mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière-Boutique, coordonnée par Laura Cuissard.
Merci, à très vite.